Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web, sur graphite.net. On se retrouve pour la continuation des émissions autour du cours W01, questionner le web, de l'Université de Technologie de Compiègne, dont le contenu est librement accessible sur librecours.net avec tout un tas d'autres ressources chouettes. Toute l'après-midi jusqu'à 19h, les étudiantes et les étudiants de WE01 viennent présenter le résultat de leurs travaux du semestre, travaux qui s'articule autour de grandes problématiques en rapport avec le web et plus largement du numérique. Pour cette émission, donc, je suis en studio en direct avec deux étudiants et étudiantes. Sandra, Arthur, bienvenue à vous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé votre projet avec Leïla, qui n'a pas pu venir en studio, mais à qui on envoie de la force. Et vous avez choisi de traiter deux sujets, on peut dire, chauds du moment, la santé mentale et les LLM, les IA génératives. Sans plus de suspense, je vous laisse la main.
En effet, en 2014, en France, un jeune sur 25 entre 15 et 24 ans a vécu un épisode dépressif caractérisé. En 2019, c'est un jeune sur 10. En 2020, les effets du confinement sont sans appel pour la vingtaine de co-auteurs de l'enquête EPICOV. Un jeune sur 5 de la même tranche est désormais concerné. Loin de diminuer après l'épisode Covid, le taux de dépression reste stable. Ainsi, en 2024, c'est plus d'un jeune sur 5 entre 18 et 29 ans qui vivra un épisode dépressif caractérisé. Avec l'utilisation massive et croissante d'agents conversationnels comme ChatGPT ou Claude, on se retrouve dans une situation où beaucoup de jeunes se tournent vers les IA pour parler de troubles de santé mentale, ou plus simplement de leurs problèmes de vie, comme on pourrait le faire avec des amis ou des thérapeutes. On pourrait se dire que c'est une bonne idée, que ça serait un exutoire pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas se reposer sur des thérapeutes ou des personnes de confiance. Malheureusement, le 11 avril 2025, Adam Rain, un adolescent états-unien, s'est suicidé en mettant en œuvre des conseils donnés par ChatGPT, auxquels il se confiait beaucoup. Selon le New York Times, plusieurs autres procès sont en cours pour des cas où un chatbot aurait poussé un ou une utilisateur, utilisatrice, à avoir des comportements dangereux pour elle ou lui-même. Dans cette émission, on va vous présenter un article de plusieurs chercheurs et chercheuses en sciences de l'informatique, en psychiatrie et en psychologie qui aborde le sujet de la performance des LLM en tant que thérapeute. Puis on fera un lien avec le concept du technosolutionnisme avant d'articuler autour de notre article.
Notre article intitulé « How LLM Counselors Violate Ethical Standards in Mental Health Practice » est publié en 2025, a été coécrit par 5 auteurs-autrices. 3 doctorantes du département des sciences de l'informatique de l'université Brown, leur directeur de thèse et un spécialiste de la thérapie cognitive comportementale. Avant de parler de l'article en lui-même, nous avons besoin d'éclaircir deux expressions centrales qu'on utilise depuis le début, les Large Language Models et les thérapies cognitives comportementales. Un LLM, ou Large Language Model, est un grand modèle de langage qui peut, après avoir au préalable analysé des volumes immenses de textes pour trouver les régularités statistiques dans une langue, générer une suite de mots dans une langue donnée, en réponse à un prompt de l'utilisateur. Par exemple, avec pour premier prompt « bonjour », une réponse statistiquement probable à cela selon les textes sur lesquels le LLM a été entraîné pourrait être « salut ». Puis après, on trouverait, disons, « comment », puis « tu », et enfin « va ». Ce qui est important de retenir ici, c'est que la réponse générée dépend fortement des textes sur lesquels le LLM a été entraîné. La thérapie cognitive comportementale, ou TCC, est une forme de psychothérapie s'appuyant principalement sur des méthodes de restructuration cognitive. Le ou la patiente apprend à prendre conscience des pensées automatiques et des schémas de pensée internalisés et à les changer lorsqu'ils sont néfastes. Le but de cette thérapie est d'aider à atteindre des objectifs concrets dans la vie de tous les jours, définis au préalable avec son ou sa thérapeute. Maintenant, intéressons-nous à l'article. Celui-ci critique l'utilisation de LLM comme thérapeute. En effet, d'après l'article, ceci viole de nombreuses lignes d'éthique de la TCC, définies notamment par l'American Psychological Association. Nous, on va détailler un seul des thèmes développés dans l'article, le manque d'adaptation contextuelle des LLM. Déjà, parlons des lignes d'éthique que doivent suivre les thérapeutes pratiquant la TCC. En théorie, les praticiens et les praticiennes sont censés prendre en compte au maximum le contexte de leur patiente. Ce contexte désignant à la fois la société dans laquelle on vit, la culture à laquelle on appartient et la situation personnelle, comme les relations que les expériences vécues. Ce contexte façonne nos valeurs et notre personnalité. C'est bien décrit dans l'article avec la phrase « Practitioners who understand how personality traits are shaped by life experiences can create better customized treatment plans that help patients grow and succeed in ways that fit their unique context. » Puisque le but de la TCC est, comme dit précédemment, d'aider le ou la patiente dans sa vie de tous les jours, la TCC doit être adaptée à ce contexte. Sinon, elle risque d'être en dessous des standards, d'après l'article. Cela implique que chaque TCC est unique. Il se trouve qu'en pratique, c'est difficile de correctement respecter cette ligne d'éthique. En effet, les psychologues en TCC sont aussi des êtres humains dans leur contexte. Par exemple, si un homme noir parle à sa psychologue blanche du regard criminalisant que l'État porte sur lui, elle sera plus difficilement capable d'évaluer les implications de ce ressenti dans la vie de son patient que une personne qui vivrait la même chose. Mais du coup, en quoi les LLM violent cette ligne d'éthique ? Nous choisissons de rassembler les exemples de violations mentionnés dans l'article sous un même thème, celui de la généralisation de la thérapie par les chatbots. Par là, on entend que les thérapies délivrées par les LLM ne sont pas adaptées à l'individu, qui a ses besoins uniques, comme mentionné précédemment, mais ne font que ressembler à une thérapie moyenne pour un individu moyen. Cette généralisation peut être observée à de nombreuses échelles, à celui de la thérapie entière, car il a été noté que les LLM suivent les protocoles à la lettre au lieu de s'adapter à la situation. À celui de l'analyse des pensées des patients-patientes, les chatbots ont classifié de manière répétée des pensées totalement différentes comme des cas de pensée en noir ou blanc. Et enfin, également au niveau des patients et de leur contexte, en imposant des valeurs différentes aux leurs, en particulier pour les groupes minoritaires. Cela entre ainsi en conflit avec les principes de la TCC, qui sont adaptés à chaque patient-patiente.
Alors, certes, l'article qu'Arthur nous a présenté a fait le choix de comparer l'efficacité des modèles génératifs et des thérapeutes humains dans le domaine de la psychiatrie. Cependant, il confronte moins la démarche en elle-même. Cette démarche qui consiste à répondre à un problème humain et complexe par une proposition technologique, ce qui est une attitude typique chez les ingénieurs. Dans notre cas concret, on pourrait parler de médecine de précision. Un champ de recherche foisonnant qui part du principe que la personnalisation des traitements médicaux assistés par les données aura un effet bénéfique général sur la santé humaine. Celle-ci a fait l'objet de controverses académiques et cliniques, et pour ses détracteurs, elle est un exemple de technosolutionnisme, c'est-à-dire une croyance selon laquelle la technique peut être employée pour résoudre tout type de problème, qu'il soit environnemental ou autre, avec peu ou aucune modification de comportement social. Ce concept apparu au milieu des années 60 est défini par le physicien Alvin Weinberg et est un des piliers de la pensée critique des techniques, parfois abrégées technocritiques. Donc, prenons un exemple bien connu, le dérèglement climatique. D'après l'idéologie technosolutionniste, des dispositifs innovants pourraient inverser l'impact que les humains ont eu sur la Terre depuis des siècles. Le souci principal, celui dont on parle le plus souvent, est le CO2 et son effet de serre. On entend alors parler des processus de captage de CO2, donnant espoir au grand public. Or, le problème du changement climatique va bien au-delà du CO2 et comprend d'autres facteurs comme la pollution de l'eau, les microplastiques ou la production d'autres gaz nocifs. Par ailleurs, on ne sait pas quel autre impact une captation massive du CO2 aurait sur l'environnement. Tout cela nous ramène au fait que le technosolutionnisme est un pari incertain, qui ne prend pas en compte la vraie complexité des problèmes. Dans ce cas, une pensée systémique qui traite les interdépendances entre les différents phénomènes devrait être appliquée, ce qui n'est pas forcément le cas dans le technosolutionnisme. Ces solutions techniques abordent souvent un seul aspect du problème sans régler les causes racines. Par exemple, si on revient au sujet de la santé, ces derniers temps, on observe la hausse en popularité des médicaments GLP-1, comme par exemple l'Ozempic, qui est une substance de base destinée essentiellement au traitement des personnes diabétiques. Cependant, malgré des effets secondaires conséquents et parfois même fatales, d'après les données fournies par la MHRA au Royaume-Uni, elle est aujourd'hui souvent utilisée par des personnes parfaitement saines comme moyen d'amaigrissement rapide. L'enjeu serait donc de ne pas voir ces médicaments comme un outil de perte de poids simple, mais de traiter le problème du côté des normes et des structures sociales. Donc de se poser des questions comme par exemple, pourquoi y a-t-il une envie de perdre du poids en grande vitesse? Quels sont les dangers de la popularisation d'une certaine image du corps standard? En bref, le technosolutionnisme est un concept qui réduit et généralise des problèmes compliqués créés par l'homme, qui lui est une créature complexe. Et par conséquent, on ne peut pas considérer ces problèmes comme simples défis techniques qui présenteraient des solutions miracles.
Merci beaucoup pour votre travail et votre intervention qui va s'étendre un petit peu après la musique que vous avez choisi de passer pour ponctuer votre intervention. Est-ce que vous voulez nous présenter cette musique ?
Cette musique s'appelle Take the Money du groupe Moonwalker. Et il n'y a pas de raison particulière pour laquelle on l'a choisie, à part que je l'aime beaucoup.
Et c'est une excellente raison. On se retrouve d'ici 3 minutes. À tout de suite. We'll be right back.
tide, slinging mud like it's a pigsty. The sheep are watching with a big smile. They might not make it another mile. We found a shovel and dug a big hole. We got complacent and we dug some more. We're so far down that now we're here to stay. We just keep on digging until the shovel breaks. I don't wanna argue.
De retour sur Graphite 94.9 pour conclure cette émission où Sandra et Arthur, vous nous avez pour à peine parlé d'IA qui sont utilisées, comparées dans la recherche pour traiter des problématiques de santé mentale. Je vous laisse conclure.
Donc pour conclure, l'utilisation des LLM dans le domaine de la psychothérapie est un exemple typique de technosolutionnisme. Face à un problème complexe, le manque de praticiens et praticiennes et le coût des thérapies, on tente de le résoudre par une solution de nature technique. On pourrait alors se poser la question suivante. Comment arrive-t-on à produire un discours présentant les LLM comme une bonne solution technologique au problème du manque d'accessibilité aux soins malgré l'inefficacité prouvée des LLM dans le domaine?
L'article que nous avons présenté met bien en évidence les limites des LLM, comme par exemple les biais culturels qui sont causés tout simplement par les textes qui ont été exploités lors de l'entraînement de l'IA pour générer ces liens de logique qui sont centrés sur la culture occidentale et qui ne sont par conséquent pas capables de représenter correctement l'ensemble des cultures. On peut aussi penser à d'autres limites qui étaient mentionnées dans l'article mais que nous n'avons pas développées, notamment un biais de surconfirmation du chatbot quant aux paroles des patients. Ce qui se passe et ce qui est remarqué par beaucoup d'utilisateurs, d'utilisatrices des chatbots est effectivement que celui-ci peut confirmer des idées qui ne sont pas forcément pour autant bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mais le chatbot n'y voit pas de différence, parce qu'il ne voit pas. Et par conséquent, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles une personne qui a besoin d'être sortie de certains cercles vicieux a besoin de quelque chose pour le ramener à la réalité, va voir ses convictions accentuées par le chatbot. Et c'est dans ces situations-là, effectivement, qu'on se retrouve avec des effets délétères pour la santé mentale. Et c'est dans ces situations-là qu'effectivement, la solution des LLM est particulièrement négative.
Merci Arthur pour tes précisions, et on retrouve en fait dans ce que tu dis cette idée de non-neutralité des techniques, que les techniques ont en elles-mêmes aussi ouvrent certaines portes et enferment certaines plus facilement que d'autres, et celle des LLM mérite en tout cas d'être, d'être mise en lumière comme vous l'avez fait à travers votre émission. Et une chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, c'est justement qu'on se pose plus rarement la question, je le reformule comme ça, mais notamment dans la formation moi, que j'ai suivie à l'UTC, les questions comme pourquoi est-ce qu'il y a une envie de perdre du poids en grande vitesse, ou les questions auxquelles entend répondre les solutions techniques qui sont déployées. Et donc j'invite aussi les personnes qui nous écoutent à faire l'exercice à chaque fois qu'une solution technique entend répondre à un problème, de se poser justement ces questions critiques intéressantes que sont est-ce que déjà les solutions proposées ont montré leur efficacité à travers des études comme celle que vous nous avez présentée, mais aussi est-ce qu'il y aurait d'autres solutions non explorées qui ne soient pas techniques, qui soient par exemple sociales, comme vous avez évoqué ici, qui ne sont pas envisagées et si oui, quelles en sont les raisons, et on peut tirer le fil un peu sur plein de façons différentes, mais il me semble que c'est dans l'esprit un peu de la pensée critique de bonnes questions à se poser. Merci en tout cas encore à vous Sandra, Arthur et Leïla pour votre travail ce semestre, et on va enchaîner dans quelques minutes avec la prochaine émission, Poissons et ceux qui nous quittent. Bon après-midi et à bientôt. Ciao.